Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une série de nouvelles, de rapports qui nous viennent d'Afrique. On va toucher à l'économie, la politique, la sécurité aussi.
L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça pour mieux comprendre les dynamiques actuelles sur le continent.
Oui, tout à fait. On va regarder des budgets assez ambitieux, des tensions médiatiques aussi, les défis énergétiques,
oui,
aussi bien le pétrole que le renouvelable, et puis des gestes politiques, symboliques, et bien sûr les questions de sécurité qui persistent. Un vrai tour d'horizon, en fait.
Parfait. Alors, allons-y. On pourrait commencer par l'Éthiopie. Son budget 2025-2026, ça fait parler. Une hausse notable.
Ah oui, une grosse hausse, plus de 28%, pour arriver à peu près à 15 milliards de dollars. L'affichage est clair, c'est pour financer la sécurité, l'aide aux populations.
Oui, celles qui sont touchées par les conflits, les sécheresses, et puis relancer l'économie. L'objectif qu'ils affichent, c'est d'atteindre le statut de pays à revenus intermédiaires inférieurs, et ça, dès 2025.
C'est très ambitieux, surtout quand on pense que le revenu par habitant est encore assez bas, 1020 dollars environ.
C'est ça.
Et puis le pays fait face à des tensions internes. Comment il compte faire, concilier cette ambition, ces réalités, et aussi la dépendance à l'aide internationale? Je pense au programme du FMI, là, les 3,4 milliards signés en 2024.
C'est toute la question, justement. L'équation, elle repose sur une mobilisation plus forte des recettes fiscales, et puis un pari sur la croissance, quoi. Mais bon, les défis structurels, sécuritaires, ça pèse lourd.
Bien sûr.
Ce budget, c'est un signal politique fort, c'est clair. Mais sa réalisation, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, internes comme externes.
D'accord. Et pendant ce temps, au Nigeria, on mise sur un secteur plus classique, on va dire, le pétrole. Mais il y a du nouveau, apparemment.
Tout à fait. Le Nigeria vient d'inaugurer un nouveau terminal, Otakikpo. Et c'est le premier nouveau terminal d'exportation pétrolière terrestre.
Terrestre, oui.
Donc à terre, pas en mer, depuis plus de 50 ans. Capacité, 360 000 barils par jour. Et l'investissement initial, c'est 400 millions de dollars par une boîte nigérienne. Donc c'est un signe fort.
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un retour en force du pétrole onshore?
Ça montre une volonté de révitaliser cette production onshore qui était souvent un peu délaissée pour l'offshore. Et surtout, je pense, de renforcer le contrôle local sur cette ressource qui est clé pour eux.
Une affirmation de souveraineté économique, en somme.
Exactement, dans un secteur vraiment stratégique.
Intéressant ce parallèle avec la souveraineté. Mais alors, quid des énergies d'avenir? On entend beaucoup parler de l'hydrogène vert africain pour l'Europe, mais il y a un rapport récent qui refroidit un peu les attentes, non?
Oui, c'est vrai. Ce rapport, il souligne un obstacle majeur, le coût. Produire cet hydrogène vert, celui fait à partir d'énergies renouvelables.
Oui, le propre.
Voilà. Le produire en Afrique et l'exporter vers l'Europe, ça coûterait beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. En fait, moins de 3% des sites étudiés seraient compétitifs sans des subventions européennes massives, dans certains pays.
Ah oui?
C'est lié au risque perçu, l'instabilité politique, économique parfois, le manque d'infrastructures aussi. Du coup, atteindre le prix cible en Europe, moins de 3 euros le kilo, ça semble très très difficile dans ces conditions, même avec de l'aide.
D'accord.
Ça calme un peu la vision d'une Afrique qui deviendrait demain le grand fournisseur d'énergie verte de l'Europe.
Cette tension entre souveraineté et réalité économique, on la retrouve aussi dans les médias, j'ai l'impression, surtout en Afrique francophone.
Absolument. On voit une méfiance qui grandit envers certains médias français, le Mali, le Burkina Faso. Ils ont suspendu, ou même interdit, la diffusion de RFI, France 24, TV5 Monde.
Oui, j'ai vu ça.
Les raisons données sont diverses. Couverture jugée partielle, de l'ingérence, non-respect des valeurs nationales. Ça va même jusqu'à cibler des émissions de divertissement jugées contraires à ces valeurs.
Donc ce n'est pas juste une question d'info politique, c'est plus large. Culturel, une question d'influence.
C'est ça. Ça s'inscrit dans un mouvement plus large, une remise en cause de l'influence française, perçue comme telle, et une volonté d'affirmer une souveraineté, informationnelle mais aussi culturelle.
Et cette affirmation, elle passe aussi par le contrôle du territoire. Au Mali, justement, l'armée a communiqué sur une opération récente.
Oui, les forces armées maliennes, les FAMA, ont annoncé avoir neutralisé un véhicule piégé. C'était près de la frontière mauritanienne dans la région de Nara. L'intervention aurait permis d'éviter une attaque.
Ça montre que, bon, malgré les efforts, le renforcement des patrouilles, la menace terroriste, elle reste bien réelle, très présente dans cette zone du Sahel.
Et pour finir ce tour d'horizon, on va au Sénégal. Là, un geste politique plus apaisé, mais symbolique.
Oui, en effet, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a gracié 1461 détenus. C'était à l'occasion de la fête de la Tabasquier.
D'accord.
La mesure, elle vise surtout des délinquants primaires, des personnes malades, âgées, des mineurs. C'est une tradition pour cette fête, mais venant d'un président tout juste élu, après une période assez tendue.
Oui.
Ce geste est vu comme un signal d'apaisement. Et peut-être le début d'une réflexion sur la question carcérale, la surpopulation notamment.
Bon, ce tour d'horizon, il montre bien une Afrique complexe, en plein mouvement. Des ambitions économiques fortes, mais face à d'énormes défis. Une affirmation de souveraineté, on l'a vu, sur l'énergie, l'info, la sécurité. Et puis, des tentatives de cohésion interne.
Ce qui est frappant, je trouve, c'est cette tension constante entre la volonté d'indépendance, de contrôle national, que ce soit les ressources, l'info, la sécurité, et puis la réalité des interdépendances. Le financement de la transition énergétique, par exemple, ou la stabilisation régionale, ça demande souvent des partenariats, des compromis, c'est pas simple.
Une dernière réflexion peut-être pour ceux qui nous écoutent. Cet équilibre délicat là, entre s'affirmer et coopérer avec le reste du monde, comment ça va évoluer? C'est sans doute une des grandes questions pour l'avenir du continent.
Tout à fait.
Merci d'avoir suivi cette analyse avec